Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on passe dans les coulisses de Nideco avec son cofondateur Simon. Nideco, c'est une marque de produits cosmétiques naturels qui ont tous la particularité d'avoir été pensés et co-créés avec sa communauté. Ainsi, chaque produit commercialisé par Nideco est véritablement au plus proche des besoins de ses consommateurs et consommatrices. Dans cet épisode, on parle avec Simon du modèle innovant de co-création de Nidé, mais aussi, plus globalement, du changement de paradigme que sont en train de vivre les marques dans leur rapport avec leurs consommateurs, et du passage de la consommation de masse à la nano-influence. Je vous préviens, on est parti très loin et on a refait le monde, alors accrochez-vous. Bonne écoute! Salut Simon.
Et bonjour Noémie.
Bienvenue dans The Storyline.
Ben merci, merci de m'inviter.
C'est un grand plaisir. Ça fait maintenant, je pense, un peu plus d'un an que j'ai repéré une idée au détour des réseaux sociaux et je crois que je mentionne le modèle et la marque dans 50% des formations et des interventions que je fais. Donc, je suis très, très, très excitée à l'idée de parler avec toi de ce que vous en avez fait et des enseignements que tu as tirés de cette expérience.
J'écoute très volontiers, si ça peut continuer à t'inspirer. Très volontiers.
Je n'en doute pas. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de tes secteurs d'expertise qui es-tu, que fais-tu?
Alors moi, je suis, tombé dans la cosmétique il y a une vingtaine d'années, parfums et cosmétiques. Un peu au départ à l'insu de mon plein gré, puisque j'ai commencé ma carrière en Chine à la fin de mes études, puisque j'ai fait une école qui me permettait d'aller en Chine donc il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, pour être très précis d'ailleurs. Et de fil en aiguille, je suis arrivé en passant par... je suis toujours resté dans les liquides puisque j'ai commencé ma carrière en Chine pour le groupe Danone et les eaux minérales Evian. Après, je les ai rejoints en France dans la branche bière qui était Kronenbourg. Et puis, je suis tombé dans le parfum à Grasse il y a 20 ans puisque j'avais rejoint une société qui fabriquait des parfums que je vendais principalement en Asie puisque j'ai cette chance de parler le chinois. Et c'est comme ça qu'il y a 20 ans, j'ai mis un premier doigt dans la filière parfums et cosmétiques. Puis de fil en aiguille, j'ai lancé des marques de parfums pour le marché japonais. Et puis j'ai accompagné des Chinois à relancer des vieilles marques de parfums, des marques endormies de parfums en France et en Chine. J'ai accompagné des jeunes pousses de la cosmétique en Provence, puisque je suis marseillais, donc j'ai rejoint une société il y a quelques années qui fait des cosmétiques en Provence, qui s'appelle Panier d'Essence. Et donc j'ai connu, je dirais, les dernières heures de la cosmétique et du parfum de l'ancien monde, puisque j'ai découvert un peu avec un peu de retard il y a 4 ans, on va dire, à cette vague digitale qui était en train de tout chambouler, du fait que les marques pouvaient à présent parler directement à leurs consommateurs et consommatrices. Et effectivement, ça change tout de l'ancien modèle, de l'ancien monde que j'ai pu connaître avant. Et donc, c'est assez passionnant et c'est un peu sur ce constat de cette vague digitale qu'on a cofondé Nideco il y a maintenant presque 3 ans, 2 ans et demi.
Génial.
Sur un modèle complètement différent de celui que j'ai pu pratiquer pendant 20 ans.
D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par l'ancien monde? C'est vrai que quand on met les mots ensemble, parfum et digitalisation, c'est assez... ça paraît pas hyper intuitif parce que ça reste en effet un secteur et un produit très chargé, très inspirationnel. Un parfum, c'est tout un univers, une égérie, une espèce d'ensemble de promesses autour d'une senteur. Qu'est-ce que tu entends par marketing de l'ancien monde et comment ça ça, comment la digitalisation impacte le secteur ?
L'ancien monde, c'est le monde où les marques... Alors, c'est un monde qui est né, pour moi, après-guerre, hein, à l'heure de l'industrialisation de masse. L'essor des médias comme les magazines, la radio, puis la télé, qui ont permis à des grands groupes de se créer sur un modèle hyper efficace qui était de dire on va fabriquer les produits, on va faire tourner nos usines et on va driver nos consommateurs et consommatrices parce que on va les influencer avec justement des égéries qu'on va mettre dans des magazines. Et on va amener ça jusqu'à dans des étalages de magasins qu'on va maîtriser pour vraiment maîtriser toute la filière de l'influence, de la distribution, de la fabrication. Et un peu comme un média unique, hein, que les consommateurs et consommatrices, en fait, n'avaient pas trop le choix avec ce qu'ils pouvaient trouver dans les magasins quand ils allaient se promener. Et donc ça fait qu'à un moment donné, moi j'étais un des premiers à faire ça, à me dire je vais faire une marque ou je vais faire une nouvelle ligne de produits. Et en fait, mes étapes à franchir, c'est plutôt l'influence pour qu'on parle de moi dans les magazines. Puis après, il va falloir convaincre l'acheteur de Sephora, de Marionneau, enfin voilà. Et en fait, la consommatrice. Je savais même pas qui elle était, puisque je faisais les choses pour essayer de convaincre les étapes intermédiaires. Et puis, de toute façon, j'avais pas la main sur la consommatrice, puisque c'était pas mes magasins. Et donc, ça, c'est l'ancien monde, qui fonctionnait plutôt bien. Il y avait des barrières à l'entrée, comme il y en a toujours, moins aujourd'hui, grâce au digital, mais finalement, il y a de nouvelles barrières qui se créent quand même, hein, entre les coûts d'acquisition et tout ça. Mais c'est ça, l'ancien monde. C'est-à-dire que moi, il y a 15 ans, je prenais mes valises remplies d'échantillons et je prenais un avion pour aller au Japon, en Corée, et puis j'allais voir des importateurs qu'il fallait convaincre que mon produit était bien, mais je m'en foutais sur consommateurs, eux s'en foutaient aussi d'ailleurs. Ils voulaient surtout arriver à les vendre dans leur réseau partenaire et d'avoir un espace de vente, de la marge. Et voilà. Et ça, c'est vrai que ça a vachement évolué. Alors, il y a eu la première bulle, hein, qu'on appelait une bulle Internet, où on parlait de e-commerce, mais c'était que du discount. Et puis après, il y a eu donc les réseaux sociaux qui ont amené quand même beaucoup plus d'interactions. Et puis, à un moment donné, on s'aperçoit que quand on peut parler à la consommatrice en direct, le rapport et la manière de faire un produit est complètement différent. La manière de présenter ses valeurs, enfin, c'est plus du tout la même logique de celle que j'appelle l'ancien monde.
Complètement. Oui, c'est vrai, c'est une transition assez passionnante et c'est rigolo de voir aujourd'hui que y a encore une cohabitation, surtout, donc du coup, là, on est dans l'univers B2C, grande distribution, sur des produits assez lifestyle. Et du coup, fort de cette observation, tu as co-créé, tu as lancé l'idée Nidée. C'est Nidéco, du coup, c'est pas Nidé.co, parce que moi, ça fait un an que je dis. Ça fait un an que je dis Nidé.co.
On dit Nidéco, pour pas oublier le co qui veut dire co-création, et Nidé qui est le nid à idée, en fait. Hein. Donc, Nidéco, c'est le nid dans lequel tu viens déposer une idée de cosmétique, puisque tout part de du consommateur et de la consommatrice. Donc, qui mieux qu'eux peuvent nous dire ce qu'il faut faire comme produit. Et donc, c'est un peu le principe chez Nidéco, de venir déposer son idée dans notre nid. Et puis on va le faire grossir ensemble jusqu'à lancer le produit. Et puis la personne qui a amené l'idée, en fait, quelque part devient chef marketing, chef produit. Et donc elle est rémunérée puisque forcément elle œuvre à la création de valeur. Et du coup, c'est un peu sur ce modèle qu'on s'est lancé. Juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, l'histoire de l'industrie de l'ancien monde, en fait, ce dont on s'est aperçu, et on n'est pas les premiers à dire ça, c'est que derrière le mot valeur, il y a toujours eu argent. Alors qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut montrer bien d'autres valeurs, parce qu'au final, un consommateur, pourquoi il veut acheter un produit d'une marque? C'est parce qu'il rentre dans ses valeurs. Et les valeurs de l'ancien monde, c'était parce que je le vaux bien ou parce que je suis très connu comme égérie et que voilà, j'ai envie de rentrer dans ce monde. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de micro-valeurs et le consommateur peut interagir sur ces valeurs. Et du coup, la notion de valeur prend beaucoup plus son importance. Elle sort de ce qu'on a toujours connu, c'est-à-dire la notion d'argent, pour aller aborder des facettes bien plus intéressantes et qui permettent justement de créer des communautés qui veulent adhérer à ces valeurs, d'échanger avec ces communautés sur les valeurs, chose qui était complètement impossible il y a 20 ans. Hein. C'est-à-dire que si moi j'avais beau avoir des valeurs dans ma marque, à un moment donné, elles arrivaient sur une étagère d'une parfumerie et la valeur a disparu.
Donc, du coup,
Donc
c'est le temps.
aujourd'hui, c'est possible et c'est ça qui est super intéressant, c'est que si on regarde comment les gens consomment aujourd'hui, on a besoin de rien pour manger. La pyramide de Maslow passe du bas, c'est bon, à 95% en France, elle est remplie. Donc on n'a pas besoin foncièrement pour vivre d'un cosmétique ou d'un t-shirt ou d'un pull, mais on a besoin de consommer avec du sens, donc des valeurs. Et le produit, en fait, est la résultante de l'échange de ces valeurs. C'est-à-dire que je rentre dans ce monde, dans cette communauté, parce qu'elle a des valeurs auxquelles j'aspire, que j'ai envie de partager. Et la concrétisation, quelque part, pour rentrer dans ces valeurs, c'est le produit. Voilà, c'est la monnaie d'échange. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Et c'est un peu comme ça que s'est créé Nideco, parce qu'on parle de co-création, mais derrière tout ça, bon, il y a toutes les valeurs que porte la marque, mais il y a aussi toute cette bienveillance, cette écoute d'une communauté, puisque jusqu'à créer des produits avec elle. Et ça, c'est vraiment la notion de base, cette écoute et cette bienveillance de tout commerçant, en fait. Là, on n'invente rien, nous. Nideco, on fait ce qui se faisait il y a 200 ans chez les artisans ou les boulangers, où les gens se rencontraient tous les jours, échangeaient, parlaient de leur famille. Et donc, c'est en ça où Nideco est à la fois, bien sûr, une marque de co-création, de cosmétiques clean, mais derrière, il y a la notion de marque amie. On tutoie notre communauté, bon, histoire d'âge qui nous permet de le faire aussi, mais il y a aussi, à partir du moment où on tutoie, on est dans l'écoute, on est dans la bienveillance, et en fait, ça, c'est hyper important, parce que pour une communauté, il faut vraiment qu'elle ait l'impression qu'elle est écoutée, et donc nous, derrière, avec ce principe de co-création, parce qu'il y a une personne qui amène une idée, mais derrière, il y a 5000 personnes qui cogitent sur l'idée avant qu'on lance vraiment le produit, et ça, en fait, c'est le fondement du coup. C'est les fondamentaux du commerce, en fait, hein.
Oui, complètement.
C'est juste basique, en fait. Ce qui est complètement hallucinant, je te coupe, c'est-à-dire,
Non, non,
toi et
vas-y.
moi, on a dû consommer, on consomme encore dans des supermarchés, parce que c'est plus pratique parfois, mais
Bien sûr.
où aller l'échange de valeur quand on passe à la caisse et qu'il y a quelqu'un qui nous demande juste de payer, et on lui a même pas demandé, elle sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'elle fait, on subodore qu'en plus, elle n'est pas forcément très heureuse à biper des produits toute la journée. Et en fait, voilà, là, c'est pas du commerce. Le commerce, c'est plutôt, effectivement, interagir avec
Une
les gens
relation.
dont on partage les valeurs, les écouter, et dans les deux sens. Et donc, Nideco, avec ce principe de co-création, est super intéressant, parce que derrière ça, il n'y a pas que le produit, puisque effectivement aujourd'hui on fait des produits un peu niche, puisque si c'est pour faire un produit qu'une autre marque fait déjà sur ses 1 mètre de linéaire chez Sephora, on n'a pas de raison d'être. Donc en fait, on va aller chercher des produits un peu niche et des idées un petit peu niche, mais en fait, on s'aperçoit que le niche peut être à grande échelle, puisque dans les produits qu'on fait, on a un produit notamment. Un des best-sellers qui s'appelle FaceTime, qui est une crème pour les fesses, sur une idée de Margot, qui va enlever les petits boutons et raffermir un peu les fesses. En fait, elle nous a tout simplement dit, ben moi, sur les 1 mètre de linéaire de Sephora ou de Monoprix, je ne les ai pas trouvés, parce que les marques qui sont vendues là-bas ne peuvent pas adresser plein de besoins plutôt niches. Et donc derrière, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va pouvoir aussi embarquer une communauté sur plein d'autres sujets, et pas uniquement le produit. On va parler de sexualité, de fesses, de choses. C'est là où la marque devient média aussi. Et ça, c'est hyper important dans toute DNVB, d'amener un contenu qui n'est pas qu'autour du produit, quoi.
Complètement. Il y a plein de choses. Tu as utilisé plein de mots-clés sur lesquels je vais rebondir petit à petit. Mais je souris en coin parce que tu as employé pas mal de mots-clés qui reviennent en fait à chaque épisode de The Storyline ces derniers temps, notamment les mots communauté, co-création, lifestyle et valeur. Et je pense qu'on est vraiment dans un changement de paradigme de la relation entre les marques et les consommateurs, et c'est assez passionnant. Mais alors, juste pour réexpliquer peut-être aux auditeurs qui ne connaîtraient pas le concept de Nideco, concrètement, sur Nidé, on peut être une consommatrice qui a une idée de produit cosmétique, qui a envie de se lancer. On va sur Nidé, on soumet son idée, et ensuite, l'idée est soumise à des votes de la communauté. Et il faut récupérer, il me semble, 2000, ça va peut-être changer, 2000 votes de la communauté, c'est ça?
Exactement, c'est ça.
2000
En
votes,
fait, tu viens
nickel.
sur notre site, tu mets ton nom, ton prénom, et tu as 3 lignes pour expliquer ta problématique. de produits que dont tu as l'impression que tu n'as pas encore trouvé ce produit sur le marché.
Et du coup,
De
ouais.
là, nous, on reçoit, alors depuis qu'on existe, on a reçu, je crois, presque 5000 idées.
Génial.
Donc, on présélectionne, on a dû en présélectionner à ce jour une quarantaine, puisque toutes les idées, on ne peut pas les mettre sur le site. Et ces 40 idées deviennent des projets qu'on commence un peu à marketer, donc en accord avec la co-créatrice, hein, puisqu'après, tout se passe par téléphone, on se rencontre en physique, on affine un peu son projet, son idée, pourquoi elle, pourquoi elle veut faire ça. La personne qui est derrière, c'est hyper important aussi, hein, il faut qu'elle porte vraiment la problématique du produit qu'elle propose. Et une fois qu'on a un peu marketé le concept du projet, on le met en vote sur notre site. Alors déjà à ce stade, bah la co-créatrice en devenir, hein, puisque il faut avoir ces 2000 votes pour que vraiment on lance le développement du produit, est rémunérée parce que bah, toute idée
D'accord.
doit être rémunérée. Donc elle va avoir déjà un welcome de 500 € quelque part. Une fois que son projet va être marketé, voté avec 2000 personnes qui ont dit, ben tiens, je pense que ça fait sens que ce produit existe, puisque ça peut arriver qu'il n'y ait pas
De
assez de gens
fit,
qui
ouais.
soient intéressés, auquel cas on ne soit pas le produit, parce que c'est pour qu'il finisse dans une salle de
Oui.
bain comme plein de produits qu'on finit jamais, ben il n'y a pas de raison de le lancer. Donc à partir du moment où son projet est voté, elle va avoir une deuxième prime de 1 500 €. Et à partir de là, on va aller interagir avec environ 5000 personnes sur les réseaux sociaux via des sondages, via des bêta-tests, enfin plein d'infos où on va aller interroger la communauté qui se sent intéressée par cette problématique du produit qui est concernée sur plein de sujets. On va interroger sur le prix, sur le type de packaging, l'application, est-ce qu'il faut que ce soit parfumé, la texture. En fait, on va co-créer avec 5000 personnes chaque produit.
Ok,
Et donc
incroyable,
ça, c'est
ouais.
hyper intéressant, jusqu'à la version bêta test où on envoie 200 formules à 200 personnes pour voir s'il faut ou pas refaire un retravail au labo. Et puis après, l'étape après, c'est une fois que le produit est au point, on va d'abord le passer par une phase de pré-vente sur les gens qui ont interagi pendant la durée de développement du produit, pour après le mettre au catalogue de la marque. Et là, la co-créatrice est rémunérée à hauteur de 10% des bénéfices qui sont faits sur le produit.
Trop, trop bien.
Donc c'est hyper intéressant ce modèle, parce qu'on s'aperçoit que, enfin moi je suis persuadé que dans les organisations entreprises de demain, ça sera hyper décentralisé comme ça, que les générations qui arrivent ont envie de travailler en mode projet, collaboratif, multi-projet, et voilà. Du coup, c'est super intéressant. Les 20 co-créatrices qu'on a aujourd'hui, bah, peut-être parmi elles, il y en a qui s'orienteront vers la cosmétique, hein, pourquoi pas.
Bah ouais, c'est
Et
un beau
donc,
tremplin.
on peut susciter des vocations aussi.
Mais c'est en fait ce que je trouve génial, c'est qu'il y a tellement de bonnes pratiques dans cette manière de fonctionner que tu viens de mentionner. Il y a l'approche itérative, il y a le fait d'être au plus proche de ses consommateurs, donc de ses personas, et de faire du test en continu. D'impliquer des parties prenantes sous forme de 2000 personnes dès le début, parce qu'en fait, finalement, quand tu as voté, tu es beaucoup plus engagé dans le projet que si tu étais simplement un consommateur. Random qui passait par là et qui voyait le. Enfin, c'est vraiment trop bien. Et puis surtout le côté incentive de la co-créatrice, parce que j'imagine que ça
Elle
vous aide
travaille,
aussi
hein.
à. Bah ouais, ça bosse. Et puis surtout,
Elle
c'est
travaille.
l'accès à des réseaux de personnes et donc du coup au reach organique de cette co-créatrice et de tous les gens qui auront voté et porté le projet, parce que vous avez un potentiel limite de viralité qui est intégré dans l'ADN du modèle économique. C'est impressionnant.
Oui. Et puis la co-création, là, on parle que de la création du produit, mais dans la vie, puisque notre ambition, c'est quand même de répartir la chaîne de valeur différemment de ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on sait tous que quand on va acheter un cosmétique chez Sephora, bah, en gros, il y a 60% qui va dans les poches de Sephora, 10% qui va dans les poches de l'égérie. Enfin,
Ouais.
alors que là, nous, le principe, c'est que la communauté, en fait, va se répartir la valeur, donc de celle qui a amené l'idée du produit, mais jusqu'à aujourd'hui, on a des programmes pour rewarder les personnes qui créent du contenu, parce que c'est la communauté qui doit créer le contenu aujourd'hui, la communauté qui va rédiger, qui va prendre des photos, qui va se filmer sur TikTok. Donc c'est pareil, ça c'est un poste de la chaîne de valeur qu'on doit redonner à la communauté.
Et comment vous faites
Voilà,
pour
donc nous,
incentiver ces gens-là qui créent du contenu? Ça marche comment?
on a un programme d'ambassadeurs, ambassadrices, on va dire, sur notre site, avec des histoires de si tu crées du contenu, si tu cooptes, si tu voilà, tout ça fait que ben tu as des avantages sur la marque. Aujourd'hui, c'est des avantages produits, mais demain, on pourrait imaginer que ce soit aussi, une fois que c'est un peu plus automatisé, de pouvoir incentiver, comme celle la co-créatrice qui t'a amené l'idée, quelqu'un qui demain va créer du contenu. Donc
Ouais.
là, aujourd'hui, la tech ne le permet pas, mais je te parlais tout à l'heure de la Chine où j'ai passé pas mal de temps. Tu as des applications, des réseaux sociaux dédiés à la beauté en Chine qui commencent à le faire. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Xiaohongshu. Xiaohongshu, ça veut dire du petit livre rouge. Hein. C'est un peu un clin d'œil au communisme chinois. Où tu as des rédactrices qui viennent, qui parlent d'une marque et qui sont incentivées par les marques parce qu'elles créent du contenu.
Non, je ne connaissais
Et
pas,
c'est
c'est
totalement
intéressant.
normal.
OK.
Voilà. Alors aujourd'hui, on le connaît chez nous par des influenceurs, influenceuses qui ont pas mal de followers et qui monnaient ça, mais demain, là, on sait tous que la nano-influence est beaucoup plus suivie par ces réseaux. Et le jour où on arrivera à tracer quelqu'un qui a, je sais pas, 3000 followers arrive à vendre 3 produits parce qu'elle a dit que c'était sympa, eh ben, cette personne mérite d'être rémunérée, quoi.
Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on parle de cet rapport de force entre macro et micro-influence, et qu'en fait, au final, la macro, ça va être vraiment sur la visibilité, mais avec très peu d'engagement et de conversion. Et la micro/slash nano, c'est beaucoup plus intéressant dans une optique de conversion et de rétention, d'engagement et de loyauté. Bah, génial.
La tech et les plateformes vont le permettre. Hein. Moi, je regarde mon laboratoire, c'est la Chine. Hein. Donc, je regarde comment ça avance en Chine et ça va arriver. Enfin, d'ici quelques mois, en France, sur TikTok, la transaction pourrait être sur TikTok. Donc, on pourrait imaginer que
Ah oui,
TikTok va
ouais.
pouvoir rémunérer par la marque les gens qui savent faire des lives et qui savent en parler, quoi. Enfin,
Ouais,
je dis
j'avais vu
TikTok parce
ça.
que c'est les plus avancés. Hein, mais...
Il me semble qu'ils avaient lancé un test avec Kim Kardashian, je crois, pour faire le pilote.
Ouais.
Mais alors ça pose plein de questions. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler dans cet épisode, mais du rapport et de la dépendance aux plateformes, parce qu'au final, les plateformes restent un intermédiaire qui peut devenir contraignant dans cette relation entre les créateurs et leur audience. Et au final, bah, elles sont là, c'est un peu un gatekeeper qui prend des frais, qui influence la manière dont on monétise. C'est peut-être eux les
Oui,
nouveaux ennemis.
l'enjeu, et nous on travaille dessus, c'est effectivement que le contenu qu'on crée et que nos co-créatrices ou toute la communauté crée puisse être partagée sur notre plateforme. Donc on est en train de travailler effectivement pour faire des forums sur notre site. Voilà, mais n'en demeure pas moins que en termes de reach, je veux dire Instagram
Oui,
ou
absolument. Ils
te
sont
permettre
indétrônables, oui.
d'aller un peu. Non, mais déjà porter ta voix pour que des gens qui peuvent être intéressés pour entrer dans tes valeurs, ils viennent et viennent éventuellement sur notre propre outil pour pas trop dépendre de ces plateformes. Mais au départ, tu es un peu obligé quand
Oui, pour la découvrabilité, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas
même.
s'en passer, c'est sûr. Mais dans un futur décentralisé, comme tu le disais, qui sait, peut-être qu'on aura des alternatives. En tout cas, dans le présent, l'idée, au final, c'est une sorte de forme de. Enfin, votre modèle, c'est une forme de social selling. Est-ce qu'on peut dire que vous utilisez du social selling, qui est quand même une approche en plein essor?
Oui, c'est du social selling. Sachant que le social selling, enfin, je ris un peu de ce terme à chaque fois où je parle de C2C aussi, comme si on découvrait ça par le digital. En fait, ça a toujours existé depuis
C'est vrai.
la nuit des temps. En fait, ce qui n'a pas existé, c'est ce qui a arrêté ça, c'est cette industrialisation d'après-guerre, c'est ces supermarchés où on dit pas bonjour à la personne à qui on paye. Ça, c'était pas normal. Ça, c'était l'anti-social selling, on va dire. Voilà, aujourd'hui, effectivement. Le digital nous rapproche, nous permet d'interagir et donc nous permet de prescrire des produits à ses amis, parce qu'on l'a toujours fait ça, hein, de prescrire
Oui,
des
absolument.
chaussures, de la mode à ses amis. Bon, mais aujourd'hui, ça peut être rétribué, donc on peut appeler ça social selling.
Très bien, mais ça n'a rien de nouveau et au final, c'est juste une manière de
Ouais.
rebrander un truc qui est assez, enfin, finalement, qui existe depuis des millénaires, quoi. Tout comme l'influence.
Ouais, qui utilise comme l'influence, exactement.
Ok.
Exactement.
Mais en revanche, ce qui est un peu novateur, enfin, en tout cas, qui n'existe que depuis, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe ce phénomène, on en parle depuis quelques années, c'est que vous êtes une digital native vertical brand. N'est-ce pas? Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, c'est ça, DNVB. Et donc, ce qui désigne les marques qui sont... Est-ce que c'est la même chose qu'un pure player, d'ailleurs ? Les marques qui sont nées en ligne et qui utilisent les leviers digitaux pour développer un lien direct avec leur, leur audience.
C'est ça. C'est la même chose, sauf qu'un pure player, c'est quelqu'un qui vend juste en ligne, uniquement en ligne. Donc c'est le cas d'une DNVB. Par contre, DNVB, c'est Digital Vertical. Ça veut dire que tu intègres de la création de produits jusqu'à la distribution. Donc, c'est ta marque. Voilà, un pure player, ça peut être un vendeur multimarque, quoi.
Très bien. Donc, vous, vous êtes au final une DNVB. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette typologie d'entreprise et de pourquoi vous avez choisi ce modèle-là ?
Ce qui caractérise une partie des DNVB, mais quasiment toutes, je te dirais, c'est effectivement le côté marque humanisée. Donc, tu vois qui est derrière. C'est-à-dire que nous, tout derrière chaque produit, on voit quelqu'un, ce qu'on appelle un ou une paire, quelqu'un qui te ressemble, donc qui est vraiment dans la vie de tous les jours comme toi. Et donc, ça, c'est le phénomène aussi qu'on appelle indie brands. Donc, c'est les marques qui sont incarnées par leurs fondateurs. Hein. Il y en a beaucoup. Tu as ce côté marque engagée autour de ses valeurs aussi. Voilà. Il y a une tonne de valeurs, sans parler de combat, mais voilà. Et donc, ce qui fait qu'elles arrivent à créer une communauté sur leur réseau et à vendre en direct. Donc, en fait, le point commun, je dirais, des DNVB, c'est effectivement ça. C'est à la fois de pouvoir un peu humaniser l'équipe, la transparence. Donc, derrière l'humanisation, il y a la transparence. Hein, je fais confiance à mes pairs. Parce que c'est quelqu'un comme moi, en fait. Hein. On retrouve ce qui se passait il y a 200 ans quand on allait voir le maréchal Ferrand qui faisait les produits pour mon cheval, quoi. Je voyais qu'il faisait quoi. Je passais pas au supermarché du pied de cheval. Et après, donc, d'assumer, de vraiment prendre position sur, sans vouloir toujours être toujours bien pensant, sur des valeurs qui agrègent des communautés qui ont envie de rejoindre ces valeurs.
Yes.
Et après, il y a le côté, bien sûr, e-commerce, vente en direct, D2C.
D2C, ok. Ouais, parce que du coup, c'est toi qui as le rapport et le lien en live avec tes consommateurs versus la dépendance envers des intermédiaires. Ok.
Exact.
Et aujourd'hui, votre communauté, où est-ce qu'elle évolue ? Elle existe sur quel canaux ?
Alors aujourd'hui, volontairement, on est resté assez focus quand même en termes d'acquisition de communauté sur ce qui est Instagram.
Okay.
Ça, c'était pour les deux premières années. On va continuer à investir sur ces canaux parce que la France est très grande et on peut pas être vu, entendu tout le monde en 5 minutes.
Ouais.
Mais par contre, bon, après, on est aussi, bien sûr, on fait pas mal de AdWords et on est même sur Pinterest aussi. On a testé pas mal de choses. Hein.
Ouais.
Là, on est en train de lancer aussi notre podcast, d'ailleurs, c'est en cours. Je pense que maintenant qu'on a pas mal de clients et clientes assez réguliers, très très onboardés dans la marque, on va commencer à créer un canal de communication sur notre propre site, sorte de, on va dire, de forum en fait, parce que nos produits sont très variés, permettent de prendre la parole sur plein de sujets qui intéresse nos consommateurs, consommatrices, et en fait de venir un petit peu comme si c'est comme si on avait un zoom sur notre site, tu vois, une sorte d'agora où les gens peuvent
venir
sur certains sujets. Donc on retrouve un petit peu le blog des années 2000, mais en fait voilà, et ça tu peux le faire que quand tu commences à avoir vraiment une communauté engagée qui est dans la marque, donc c'est c'est après plusieurs achats, plusieurs interactions. Voilà, et donc, mais au départ tu dois aller tu dois utiliser Instagram, Facebook. Enfin, c'est surtout Instagram en ce qui vous concerne. Même Pinterest aussi. On se sert de Pinterest aussi pour faire de l'acquisition.
Ok.
Mais l'idée à terme, effectivement, c'est d'être moins dépendant pour pouvoir créer du contenu sur notre plateforme, qui est notre site aujourd'hui. Donc, le blog, c'est une autre illustration. Enfin, pardon, le podcast. Pareil,
le podcast,
c'est pour créer du contenu pour
venir
sur notre site. Et ce contenu du podcast, tu vois, il est fait par des consommateurs, consommatrices.
D'accord. Ah, waouh, ok.
Ouais.
Qui sont incentivés aujourd'hui par ce programme que vous avez mis en place.
Exactement.
Ok, trop bien, parce que c'est vrai que c'est tout un funnel. C'est marrant, la boucle est bouclée, on est retourné au Skyblog de 2010. Comme quoi, tout est cyclique.
Mais on est retourné à l'Agora, hein, à 2000 ans en Grèce. Hein.
C'est clair.
La place où on peut échanger, discuter.
Sacré voyage dans le temps. Mais c'est ouais, ce que tu disais, je trouve que c'est vraiment, ça mérite d'être souligné. C'est qu'au final, tu as ce côté visibilité, notoriété. Et donc, tu as quand même un peu cette obligation, entre guillemets, d'être sur les réseaux pour bénéficier de reach et pour finalement démultiplier les touch points, les points de contact avec ton audience jusqu'au moment où elle va avoir envie de te suivre, elle va comprendre ta valeur, voire elle va acheter ton produit. Et là, tu passes dans l'engagement, la rétention. Et là, potentiellement, la personne devient un peu membre de ta communauté. Et à ce moment-là, c'est important. Enfin, est-ce que c'est important à toi de nous le dire? Mais c'est intéressant de la faire, de la transférer des réseaux sociaux sur une plateforme propriétaire. Est-ce que tu penses que toutes les marques, elles devraient avoir leur propre plateforme ou leur propre espace sur lequel elles ont une communauté qu'elles engagent?
C'est l'idéal. Il faut avoir vraiment un rapport avec sa communauté très fort, très interactif, avec un contenu très sharp et très lié à ce que la communauté a envie d'entendre, avec des partis pris un peu forts. Donc, il ne faut pas être trop lisse non plus. Mais oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal.
Mais ce n'est pas évident.
Ben non, ce n'est pas évident parce que, parce qu'on est sur-sollicité aujourd'hui, que ce soit sur le téléphone, dans la rue. On est à l'ère quand même de plus. Je pense qu'on va arriver à une ère de détox. Mais on va plutôt aller chercher du contenu vraiment ciblé. Et effectivement, ce n'est pas forcément sur un feed Instagram avec 3 pubs C'est là où on ne voit plus que 20% des comptes qu'on suit et le reste, c'est des pubs qu'on va le trouver. Donc, effectivement, il va y avoir une migration, je pense, de la recherche de contenu de ces plateformes vers des choses beaucoup plus niches.
OK. Ouais, ça me paraît assez logique. Mais alors, du coup, la question que j'ai, que je pose souvent par rapport à cette tendance que j'observe aussi beaucoup de fracturation, un petit peu finalement de création de nano et de micro-communautés d'intérêt, de lifestyle, c'est comment est-ce qu'on va faire pour s'y retrouver? Parce qu'au final, on appartient tous à un paquet de communautés. Et si toutes les marques se mettent à lancer leur communauté, comment le consommateur, est-ce qu'on va finir par atteindre une certaine forme de saturation à nouveau, comme on l'a eu sur certains formats de publicité et de marketing? Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que tu as raison.
Ça ne m'arrange pas du tout, ça.
Non, je pense que tu as raison. Je pense que à un moment donné, effectivement, toutes ces marques, nous y compris, devront quelque part en termes de contenu, d'interaction, parce qu'on devient des marques médias, hein, au final, même si l'histoire des valeurs et de l'infotainment, c'est d'amener quand même notre point de vue, de vouloir le partager, de vouloir échanger. Donc, tout ça, c'est un média, en fait, hein, interactif.
Mmh. Ouais.
Et donc, je pense que ces marques qui ont des valeurs affinitaires ou se regrouperont ou seront aux mains des médias. Je pense que l'avenir de beaucoup de DNVB, il est de passer dans les mains des médias.
Ah, waouh,
ok. C'est un peu curieux, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois en Chine apparaître aujourd'hui.
Décidément, les Chinois.
Puisque...
C'est vrai qu'ils sont précurseurs sur plein d'usages. C'est un laboratoire passionnant à observer parce qu'ils sont en avance de, je ne sais pas, quelques années sur, dirais-je, 5-10 ans.
Ils sont en avance parce qu'ils étaient beaucoup en retard, en fait. Donc, ils sont beaucoup plus prêts au changement que nous.
Ouais.
C'est surtout ça qui fait la différence.
Oui, c'est la capacité d'adoption rapide.
Ils font des bons technologiques, voilà, exactement. Mm. Donc, tu vois, aujourd'hui en Chine, c'est des médias ou des gens de la tech qui fédèrent effectivement un ensemble de marques pour aller créer du contenu commun qui permet d'agréger plusieurs communautés de plusieurs marques.
Alors, c'est marrant parce que, justement, c'est un peu là où allait ma réflexion, mais pour l'instant, qui sait, peut-être qu'un jour, j'aurai une théorie officielle, mais c'est exactement ce que tu dis. Je me dis que, potentiellement, la solution à ça, c'est qu'on va finir par créer des espèces de bundles de marques et de produits, et donc d'aller vers... est-ce que ça va dans le sens des organisations décentralisées? Je ne sais pas trop. Mais plus autour d'une marque, mais autour d'un mode de vie ou d'une promesse ou d'une aspiration pour vraiment recentrer le tout sur le consommateur et ses envies... Et ça, son mode de vie, quoi.
Ça me paraît normal, en fait.
Ouais, mais complexe en termes...
C'est complexe parce que...
J'ai hâte de voir comment ça va se manifester.
Oui.
T'imagines si des boîtes devaient co-vendre des produits sur des... Enfin, ça demande de réorganiser complètement les modèles économiques qu'on a aujourd'hui.
Ouais, mais on y arrivera. On regarde ce qui se passe en termes de crypto-monnaies, enfin de...
Ouais, c'est vrai.
Enfin, moi, je le vois toujours pareil. Mon laboratoire, je suis désolé, hein, c'est la Chine, mais je vois comment les choses s'organisent. Et comme elles vont vite, hein, tu as cette plateforme aujourd'hui en Chine qui s'appelle, en Chine elle s'appelle Douyin, chez nous elle s'appelle TikTok. Bon, en fait, tu as des gens aujourd'hui, donc sur le TikTok chinois, et pas forcément que des méga influenceurs, hein, qui se filment toute la journée et qui vendent des produits. Qui vendent des produits alors que c'est pas. Ils vivent pas de ça. Mais parce que, en fait, socialement, ils existent sur un réseau social et ils sont suivis par des gens qui ont les mêmes aspirations qu'eux. Et puis, ils en font un peu leur métier. Et voilà, en fait ça s'agrège un peu tout seul, quoi, grâce à la tech. Et ils sont rémunérés quand ils vendent un produit et ils intéressent voilà, des gens. Après, ça va micro-parcelliser, effectivement, on parlait de niche, mais voilà, de micro-niche. C'est-à-dire qu'effectivement, tu auras des marques qui ne pourront pas faire des millions d'euros de chiffre d'affaires parce qu'ils sont sur un engagement, sur une typologie de produit. Mais voilà, il faudra juste qu'ils sachent. Il y aura pas des L'Oréal qui naîtront des DNVB, effectivement.
Ouais, mais ça me paraît pas. Je ne déplore pas cette réalité. Je pense que c'est limite souhaitable.
Mais encore une fois, on revient à il y a 200 ans, la rue avec tous les artisans. Bah, il n'y avait pas un énorme supermarché de Maréchal Ferrand. Il y avait 3-4 dans la même rue. Et puis moi, j'avais envie d'aller voir celui-là parce qu'il était sympa, parce qu'il connaissait ma grand-mère, parce que Angeval, il l'avait vu. Tu vois.
Ouais,
c'est nous qui avons inventé de créer des temples de Maréchal Ferrand. Enfin, je donne toujours cet exemple, je ne sais pas s'il est bon, Maréchal Ferrand, mais ouais, c'est pour expliquer qu'en fait, moi, je crois vraiment, sincèrement, que le digital est en train de nous ramener à il y a 200 ans. C'est-à-dire, enfin, on peut se parler, enfin, on peut s'écouter, enfin, on peut être dans la bienveillance.
Ouais, c'est
alors,
quand
il y a des travers, hein, mais moi, je prends le côté positif.
Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est marrant. J'ai un autre invité, Pierre Guibaud, qui disait dans le podcast un truc avec lequel je suis vraiment complètement alignée. C'est pas forcément les outils ni le digital qui sont chargés d'impact négatif. C'est l'usage qu'on choisit d'en faire, nous. Donc, c'est toujours nous qui faisons, qui créons l'impact positif ou négatif des choses qu'on crée et qu'on utilise. Donc, au final, peut-être que finalement, on peut finir sur un message d'optimisme et se dire qu'on a enfin compris comment ramener plus de...
Moi, je suis super optimiste.
Bah ouais, c'est assez cool, au final, ce qui se passe en ce moment.
Je déborde du sujet Nideco, mais la planète, ça va peut-être faire sauter au plafond certaines personnes, mais la planète, ce qui va la sauver, c'est le digital. Et elle-même. C'est-à-dire la planète, elle sera toujours là, hein, mais c'est nous qui risquons de disparaître. Mais nous, on va se sauver grâce au digital. Parce que je le vois aujourd'hui, même s'il y a plein d'initiatives dans tous les sens, quoi, on prend conscience. Et tout ça, s'il n'y avait pas eu le digital, il n'y aurait pas eu des voix qui s'ouvrent, qu'on écoute, des Greta Thunberg ou des. Et en fait, on aurait continué à avancer dans le mur. On pense qu'on va dans le mur, mais je trouve qu'on fait beaucoup, beaucoup de choses. Très positif, prendre micro-initiative, et ça, c'est le digital.
Ouais, l'essentiel est de comprendre comment utiliser les outils pour avoir un impact positif, quoi. Quelle belle note de positivité. Bah écoute, j'ai envie de te dire merci, Simon. C'était une bonne dose d'inspiration.
Bah écoute, volontiers, si je suis peut-être pas trop optimiste, mais je le suis beaucoup.
Bah je pense que c'est plutôt sain.
Mais moi, si tu veux, j'ai tellement fait 20 ans dans l'ancien monde, c'est-à-dire que moi, j'avoue, j'ai jeté des papiers par la fenêtre quand j'étais petit dans la voiture de mes parents.
Ah là là.
Et en fait, aujourd'hui, mon fils qui a 18 ou 19 ans, parce que tout ce qu'il regarde sur les réseaux, on lui montre la planète et patati patata, les Ouïghours et tout, putain, il a pris conscience beaucoup plus que moi, à qui on ne faisait pas prendre conscience que j'avais 3 chaînes de télé où on ne regardait pas, on ne parlait pas de ça, quoi. Et donc voilà. Et du coup, pour revenir à Nideco, je suis persuadé que le digital va aussi permettre de changer complètement les organisations de travail. Voilà, ces principes pyramidaux d'après-guerre avec la réunionnite, le grand patron, le machin. Les générations qui arrivent n'ont pas envie de ça. Et en fait, grâce au digital, tu le vois, là, on fait un podcast en visio, on peut travailler totalement différemment. Et la manière dont j'ai cofondé avec, malheureusement, pas eu le temps de le dire, mais nous sommes 5 chez Nideco. C'est une super aventure. Il n'y a pas, chacun est à sa place. C'est super bien autogéré. Les co-créatrices qui nous rejoignent, elles se régalent, elles sont en mode projet, comme je te disais tout à l'heure. Et demain, il y aura peut-être des personnes chez Nideco qui sont partie de la communauté, qui vont livrer les produits un peu, tu vois, parce que, et qui auront un revenu par rapport à ça. Et donc, en fait, le digital va aussi permettre non seulement de sauver la planète, mais en plus, de renouer le lien de travail dans les organisations collaboratives.
Eh bien, ça fait rêver tout ça. Ça donne envie.
Ouais.
Bah écoute,
faut y croire.
Je te remercie pour toutes ces idées et toutes ces sources d'inspiration, Simon. Je crois que j'ai envie d'aller googler tout ce que tu m'as raconté sur le modèle chinois pour aller voir ce qui se passe là-bas. Je vais être plus attentive.
Bon, tout n'est pas bon à prendre, hein, attention, là, je l'ai mis en exergue, mais il y a des travers qu'il ne faut pas suivre.
Certes. Mais là, c'est intéressant ce qui se passe. On ne va pas déborder, c'est peut-être l'heure de terminer l'enregistrement, ouais. mais c'est rigolo, tous les discours depuis quelques mois là, autour de la prospérité collective et tout. Il y a quand même aussi un gros truc qui se passe en Chine par rapport à la Startup Nation, au digital et à la tech, un petit revirement de situation, pas forcément positif pour les entrepreneurs, mais à surveiller.
Noémie, merci beaucoup pour cette invitation.
Merci à toi.
Et bravo aussi pour ce que tu fais, puisque avant le podcast, tu m'as un petit peu raconté ce que tu faisais. Tu fais partie de cette génération, justement, dont je pense qu'il y a vraiment envie de changer les choses, et c'est génial.
Bah, merci beaucoup. Merci, je suis hyper flattée de ce que tu dis. Je suis en train de rougir. Mais du coup, ça me fait très plaisir, et du coup, j'en profite, vu qu'on est dans une phase de remerciement. Merci aux auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est vous qui me donnez l'énergie et l'envie de faire ce que je fais au quotidien, et notamment ce podcast. Donc voilà, tout le monde est content, tout le monde est heureux. The Storyline, c'est l'univers des bisounours.
Ça fait du bien.
Ouais, ça fait du bien de temps en temps. Bon, bah écoute, Simon, je te souhaite une bonne journée.
Merci, toi aussi. Au revoir.
Merci à toi, au revoir. Alors, que pensez-vous des idées de Simon ? Je suis de mon côté très très fan de l'approche de Nideco, qui incarne à mon sens toutes les bonnes pratiques que les marques devraient avoir en tête aujourd'hui. La co-création comme modèle vertueux, la proximité forte avec les consommatrices et les consommateurs, l'importance donnée à la communauté et la valorisation du contenu qu'elle crée, et plus globalement, un modèle qui rejette le marketing et la consommation de masse pour aller vers une niche plus engagée. Je m'arrête là, mais je ne peux que vous encourager à vous inspirer de l'approche Nidé pour votre stratégie marketing. Et plus généralement, j'espère que notre réflexion sur le futur de la consommation et notamment le bundling des marques vous aura donné quelques pistes de réflexion. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans The Storyline.